Win it. Willette. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
La semaine des grands retours. Retour en onde pour toute l'équipe, pour toutes les équipes ici à Radio X. Et un peu partout, on se remet en branle, on recommence, on repart la machine, comme on dit, et on réaccueille comme ça, un après l'autre, nos chroniqueurs. Et le premier de la liste, c'est Jean-François Lisée qui est là. Monsieur Lisée, on se l'est dit hors d'onde, je vous le dis en onde. Bonne année, merci d'être là, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un pays, mais écoute, on verra, hein, on verra. C'est pas encore fait, ça.
C'est un bon timing.
Ben, c'est pas pour cette année, peut-être l'an prochain.
L'an prochain?
Mais, oui, mais pas avant. Je pense que ça va être pas avant l'an prochain. Mais c'est gentil à toi de me le souhaiter.
Non, c'est vrai que ça serait rapide un peu pour le référendum.
Tu sais, c'est le 5 octobre. 5 octobre, l'élection. Ensuite, référendum le 24 décembre. Il y a peut-être des gens qui vont être absents.
Hey, j'ai parlé de souveraineté dans le show un peu plus tôt parce que on parlait en fait de tout ce qui s'est passé entre notre départ, qui ça fait pas 3 mois, là, on parle de quoi, de 3 semaines à peine, et notre retour où déjà les plaques tectoniques de la géopolitique mondiale ont énormément bouger. Puis évidemment, on a parlé d'Iran, on a parlé de Venezuela, on a parlé de Cuba. Et je me posais la question, puis je sais que c'est pas exactement notre sujet, mais quand même, je pense que ça va faire partie de la discussion. Est-ce que le timing est excellent pour un pays, pour créer un pays?
Ben, écoute, peut-être que la semaine prochaine, le Groenland va être un territoire américain.
Ouais.
OK? Ouais. Alors, entre le Groenland et, disons, l'État du Maine, il y a le Québec.
Oui.
Bon. Oui. Alors, écoute, c'est sûr que Donald Trump, en ce moment, il est dans dans sa phase impérialiste. Et puis, d'ailleurs, le Groenland, c'est extraordinaire parce que, alors, il fait semblant que ben, ce serait important pour la sécurité nationale, mais ils ont un accord avec le Groenland des États-Unis qui leur permet d'augmenter indéfiniment le nombre de soldats américains ou de bases qu'ils veulent avoir sur ce territoire-là. Donc,
de mémoire, là, il y a déjà eu plus de 200 bases américaines là, au Groenland pendant la guerre froide.
Oui, ben, un certain nombre. En tout cas, et là, ils se sont désengagés. Mais là, s'ils voulaient se réengager, il n'y aurait aucune difficulté à se réengager. Et même, bon, on dit qu'il y a des terres rares, là. Bon, ben, il n'y a pas de problème à faire une entente d'exclusivité pour les terres rares s'ils voulaient faire ça. Mais M. Trump l'a dit la semaine dernière, lui, il aime mieux la propriété. Finalement, j'aime mieux le posséder. OK?
Ouais, ouais.
Alors, donc, ça va être soit la manière forte, soit envoyer des chèques. On parle de chèques de 10 à 100 000 $ par habitant.
Mm-hmm.
Alors, comme ils sont 56 000, ça fait juste 56 millions de $.
Non, non, non. On évalue, puis j'ai vu des écoute, puis là, l'évaluation, elle est très large parce que on comprendra que c'est difficile d'évaluer la valeur d'un territoire comme ça. Bon, on parle entre 15 et 80 milliards, le plus.
Ah oui, oui, mais la valeur, oui. Mais lui, il veut envoyer des chèques de 10 à 100 000 $ par personne.
Oui,
OK? Ouais. Pour que les gens soient d'accord. Mais regarde, ça a déjà marché. François Legault nous va envoyer un chèque de 500 $. Puis on l'avait réélu. Tiens,
ouais.
Ça casse 100 000. Bon.
Ouais.
Mais pour le Canada,
à
c'est
100 000,
plus
à 100 000, la CAQ, j'y pense.
À 100 000, même toi, tu y penserais.
Ouais. À la CAQ, là, ouais, à la CAQ. Je vais arrêter ça, là.
Fait que, mais pour le Canada, on est 41 millions, donc ça ferait 4 100 milliards de $. OK?
Oui.
Alors là, ça commence à grever un petit peu le budget américain, malgré les revenus des tarifs. Alors, donc, c'est plus compliqué. Ce qui fait que, effectivement, au moment du fait de la puissance de M. Trump, comme ce mois-ci, le timing n'est pas bon. Mais ce qu'on sait des interventions américaines à l'étranger, c'est que les premiers jours, ça se passe toujours bien. Et ensuite, ça devient une catastrophe. Alors, par exemple, en Irak, les premiers jours, écoutez, c'était extraordinaire.
Un
ils
succès.
Ont renversé. Oui. C'était un grand succès. Et ensuite, dès la troisième semaine, ça commence à se morpionner et c'est terrible. Afghanistan, la première semaine, c'est parfait. 7 ans plus tard, ils sont partis, la queue entre les jambes.
Catastrophe.
Bon. Alors donc, il est probable que d'ici un an et demi, toutes ces affaires de Trump commencent à devenir nauséabondes. Et qu'il y ait une baisse du pouvoir de M. Trump. Alors là, le timing va devenir meilleur. C'est pour ça que le hasard du calendrier fait que si le Parti québécois est élu en octobre 2026, il a jusqu'en octobre 2030
ouais.
pour tenir son référendum. Donc, il va avoir un meilleur timing que cette semaine-là.
Bien, ça, on verra. Parce que là, moi, chaque semaine suffit sa surprise. Là. Je veux dire, en pleine vacances du temps des fêtes, on a quand même dégommé le dictateur du Venezuela. Ouais. Puis, pour revenir à notre sujet dont on devait parler, clairement, il s'en cache plus. T'sais, il l'a dit, oui, c'est un tout croche, c'est un dictateur. Les gens, moi, j'ai pas vu de Vénézuéliens vraiment déçus, à part ceux qui étaient accrochés aux mamelles du pouvoir qui était en place. Mais sinon, il l'a dit, c'est le pétrole. Il s'en occupe pas, il sort pas le pétrole, il le vend pas aux bonnes personnes. On va s'en occuper, on va en prendre possession. Tu parlais du Groenland, on comprend qu'en sous-entendu, et encore là, c'est pas non plus caché tant que ça. Au moins, il le dit. Il y a des ressources naturelles, on les veut, puis on va les avoir, exact. On va aller les prendre. Et là, ben, le Canada doit faire partie de cette discussion-là, parce que on est quand même... Moi, j'ai été surpris, premièrement, de voir que le Venezuela avait autant de pétrole. Dans ma tête, les pays du Moyen-Orient étaient ceux qui détenaient le plus de pétrole. Bien, c'est pas vrai. C'est le Venezuela. Mmh. Et le Canada, dans le top 3, quand même. Tu sais, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un œil vers le nord. Là.
Bon, alors, il y a pétrole et pétrole. Et ce qui est extraordinaire, c'est que... là, M. Trump, lui, dans sa tête, c'est très important d'aller chercher ce pétrole-là. Mais il en a parlé aux entreprises pétrolières américaines avant l'intervention et après. Et hier ou avant-hier, il les a réunis à la Maison-Blanche. Puis il n'y en a pas un autour de la table qui a dit « Oui, on est très pressé d'aller chercher ce pétrole-là. » Non, ils ne sont pas pressés d'aller chercher ce pétrole-là parce que, d'abord, c'est du pétrole lourd comme celui de l'Alberta. Ça coûte très cher, donc la rentabilité est moins grande que lorsque c'est du pétrole léger, comme, disons, dans la mer du Nord, en Algérie.
Comme les puits au Texas.
Ou à Terre-Neuve, et certains puits au Texas. Et donc, en fait, il n'y avait pas de demande des pétrolières américaines pour aller chercher ce pétrole-là. Et d'ailleurs, Trump est très fâché parce que le gars d'Exxon a dit plus clairement que les autres devant Trump, et puis les caméras tournaient, que franchement, ça semblait impossible d'aller chercher le pétrole. Et là, Trump a dit, bon, peut-être qu'on va exclure Exxon, finalement, de cette opération-là. Ben, ils voulaient s'exclure eux-mêmes.
En même temps, il veut aller très vite parce que, tu sais, moi, juste si on regarde le contexte social là-bas, je veux dire, il n'y a pas une compagnie qui va aller se garrocher. Là, on est dans un pays complètement instable, exact. Qui est en train de vivre un changement de régime où on ne sait pas trop.
Ben, il n'y a pas de changement de régime.
Ben, c'est ça, on ne le sait pas.
C'est-à-dire que là, il garde le régime, OK? Donc, c'est aussi corrompu qu'avant, sauf que maintenant, c'est des corrompus
qui
travaille pour les États-Unis,
ouais, c'est ça.
Au lieu de ne pas travailler pour les États-Unis. Bon. Alors ça, c'est le nouveau système. Tu sais, le système, c'est pas... On veut pas vous achaler avec la démocratie puis tout ça. C'est tellement instable. Mais une bonne dictature, si elle travaille pour nous, ça, c'est stable. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir, là. Alors, ce qui fait que ce pétrole vénézuélien, là, c'est un mirage. Il sera pas sur le marché avant au moins 10 ans. S'il vient sur le marché...
Mais bémol, ils l'ont quand même déjà sorti, ce pétrole-là. Tu sais, là tout est à l'abandon. Là.
Ben, c'est-à-dire, il y a longtemps, ils sortaient régulièrement, puis là, ils sortent moins. Mais en tout cas, comme je te dis, les compagnies qui doivent le faire ne veulent pas le faire, OK?
Moi, je pense que c'est pour l'instant.
Ben, pour l'instant. Mais aussi, c'est qu'il y a suffisamment de pétrole dans le monde en ce moment que le prix du baril de pétrole est en bas du prix nécessaire pour rentabiliser, si tout allait bien, ce qui se passe, le pétrole du Venezuela.
L'exploitation, oui.
Ça, c'est un gros problème. Il y a trop de pétrole. Et là, c'est la même chose pour notre pétrole à nous. T'sais, là, Daniel Smith puis M. Poilievre dit, ben là, il faut se dépêcher parce que le pétrole du Venezuela va venir voler nos parts de marché. Donc, dépêchons-nous à faire notre propre pipeline le plus vite possible vers l'ouest. Ben oui, mais il n'y a toujours pas une seule compagnie qui a levé la main pour le faire parce qu'ils font le même calcul que les autres, que ben, en ce moment et pour l'avenir prévisible, le prix du pétrole est trop faible pour que ces patentes-là soient rentables, même si tous les Autochtones de Colombie-Britannique faisaient des prières pour qu'on le fasse.
Mais par contre, la valeur, le pétrole s'en va pas. T'sais, je veux dire, le pétrole est là.
Ah, il reste là.
Il va rester là 20 ans s'il faut. Je veux dire, il s'en ira pas. Là, t'sais. Donc, il y a quand même relié à ça le potentiel qui est important et non négligeable. T'sais, tu peux pas juste dire, oh, bon, regarde, c'est pas grave, là, pour l'instant, ça coûte trop cher. Il y a une valeur quand même à ce pétrole-là.
Il y a une valeur. Mais il y a du monde qui font de l'argent à calculer cette valeur-là puis de décider s'ils vont investir 10 milliards de dollars pour profiter de la valeur au marché. Et pour l'instant,
je vais
donner un autre exemple. Au Colorado, la semaine dernière, évidemment, Trump lui a décidé que les pétrolières pouvaient drill, baby drill, n'importe où. Donc, il a ouvert des espaces protégés au Colorado. Il les a mis aux enchères. Pas une seule compagnie pétrolière a déposé une soumission.
Trop compliqué, j'imagine. Colorado, c'est de la montagne, c'est compliqué.
Écoute, ils ont fait leur calcul économique, puis on dit, dans l'avenir prévisible, il n'y a pas de profit à faire avec ça.
Mais alors, placer ces pions,
pour les pipelines.
Mais pour le futur aussi peut-être, parce que tu te dis,
on ne l'exploite pas pour l'instant. Si le prix du pétrole dans 10 ans monte à 100 $ le baril, là, il va y avoir plus d'investisseurs qui vont être prêts. Mais donc, en ce moment, pour l'instant, c'est un mirage. Puis si le gouvernement canadien décidait... Bon, déjà, là, tu sais qu'on investit 38 milliards de dollars par année en subvention à l'industrie pétrolière, OK? Alors là, juste nous autres au Québec, là, il y a 7 milliards de dollars de nos impôts qui vont chaque année en subvention à l'industrie pétrolière. Ça, c'est 4 fois ce que l'Alberta nous envoie en péréquation.
Ben moi, je te suis si on traite toutes les subventions comme ça. T'sais, je veux dire, parce que là, je vais te sortir ce que j'entends sur toutes les autres subventions. Ça crée des emplois de qualité, c'est des bons salaires, c'est des gens qui font virer l'économie.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est l'industrie la plus subventionnée au Canada, c'est l'industrie pétrolière.
Mais c'est la plus payante.
C'est moi?
Oui.
Ben, c'est pas la plus payante. Une fois que tu enlèves les subventions et les profits, ils vont où? Aux États-Unis. La majorité de nos entreprises pétrolières sont américaines.
Mm-hmm. Donc, je reviens à ma question initiale. Combien de temps avant que Trump commence à nous menacer comme il fait avec les autres? Il a déjà commencé là, avec son 51e État, mais...
Ben, c'est ça. Alors, ces marottes, il y a comme des cycles avec ces marottes. Par exemple, le Groenland, il en avait parlé dans le premier mandat. Ensuite, il en a reparlé au début du deuxième mandat. Il a oublié ça pendant quelques mois. Là, ça revient. Là, ça devient urgent.
Ouais.
Il a décidé que c'était urgent. Alors, le 51e État, il en a parlé quand Trudeau était là. Depuis que Carney est arrivé, il n'en parle plus. Mais ça peut revenir. Ça peut revenir. Alors, on est à la merci de l'imprévisible. Et il nous a donné, la semaine dernière, quelle est la limite, qu'est-ce qui encadre son action. C'est sa propre moralité.
Oui, il l'a dit, ça aussi, oui.
Oui.
Mais il a dit, je veux pas faire mal aux gens.
Je veux pas faire mal aux gens. Ce serait mieux qu'ils se soumettent. Okay? Si les gens résistent pas, je leur fais pas mal.
Jean-François, merci beaucoup. Merci. Puis on n'a pas de réponse, on ne sait pas là, exactement. Mais est-ce que tu trouves que Mark Carney tient ses coudes bien élevés?
Ben non, ça c'était... non, il fait profil bas.
On sentait qu'on aurait mis à peu près n'importe qui là, on aurait le même résultat. Là.
Je ne pense pas, moi.
Non?
Parce que je pense que si on avait mis Poilievre, qui est un bagarreur, je pense qu'on aurait suscité encore plus de colère de M. Trump.
Donc, Carney fait comme tu dis, il s'est bien couché, puis
c'est un genre... Tu sais que René Lévesque, un jour, a dit à Robert Bourassa, tu es un calmant ambulant. Alors, donc, Carney est un genre de calmant.
Un relaxant musculaire, c'est bien.
Ouais. Hey, juste, allô, Jean-François, ça va bien?
Salut, Patricia.
Oui, hey, j'ai juste fait une petite recherche vite, là, parce que... c'est pas payant, le pétrole. Fait que là, j'ai marqué principaux bénéfices financiers. Bon, on parle de contribution au PIB. En moyenne, 3 à 7,7 % du PIB canadien, selon les années et la méthodologie. Ça veut dire environ... 70 à 210 milliards de dollars par année. Les emplois, environ 450 000 à 900 000 emplois. Des salaires moyens très élevés, environ 2 fois la moyenne des autres industries de biens. Les revenus pour les gouvernements, bon, les royalties provinciales, c'est 20 milliards par année. On parle, après ça, on parle pour les redevances, des dizaines de milliards chaque année. En 2021 et 2023, c'est 95 milliards cumulés. Et historiquement, oui. Entre 2000 et 2021, c'est plus de 578 milliards de dollars pour tous les paliers de gouvernement.
C'est-tu ce qui va te donner un résultat similaire? C'est si tu demandes la portion de PIB, le résultat similaire, l'industrie culturelle canadienne donne les mêmes résultats.
Ben, je vais faire la recherche.
Fais la recherche. Parfait. Alors, 3 à 4 % du PIB.
On est tous bons de
3 à 4 % du PIB, OK? Tu vas trouver plusieurs secteurs industriels, commerciaux, manufacturiers qui donnent plus que ça, mais qui sont beaucoup, 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 beaucoup moins subventionnés que ça.
Donc, faudrait que je devienne chanteuse.
Ça dépend de ton talent.
Ben, je n'ai pas, mais je vais être subventionné.
Non, toi, drill, baby, drill, toi.
Le pétrole existe. Le pétrole est subventionné, mais il existe. Ton talent, tu peux subventionner, mais je ne suis pas sûr qu'il existe.
Mais on en subventionne plein qui n'ont pas de talent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Merci, Jean-François.
Merci.
Salut.
Bonne semaine. 14h09, on fait une pause. Au retour, Jason Sports, sauf des Eagles.
Ouellette, en direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.